Bonjour à tous. Série consacrée cette semaine à la religion et l'argent, que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. On vous propose comme chaque vendredi un débat entre deux experts. Aujourd'hui, faut-il mettre en place un revenu universel pour lutter contre la pauvreté ? Si le second confinement a de quoi inquiéter tous les Français, il est plus angoissant encore pour les populations les plus fragiles, déjà très affaiblies par les conséquences économiques de la pandémie. Selon les associations caritatives, le Covid a fait basculer 1 million de personnes dans la pauvreté dans l'Hexagone. Le gouvernement a annoncé des aides ponctuelles, mais pour les associations, il faut aller beaucoup plus loin, augmenter les minima sociaux par exemple et ouvrir le RSA des 18 ans. Des propositions qui relancent le débat sur le revenu universel. Est-il le meilleur outil pour éradiquer la grande pauvreté ? La question opposera nos deux invités, Denis Consigny, administrateur de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence, et David Kella, économiste, enseignant-chercheur à l'université d'Angers et membre des économistes atterrés. À 14h45, racontez-moi l'écho, votre rendez-vous qui mêle fiction et économie. Aujourd'hui, ce sont les zombies qui nous parlent de capitalisme.
Deux aides ont été annoncées. D'abord, une aide de 150 euros pour les personnes au RSA et à l'allocation spécifique de solidarité et 100 euros par enfant pour les personnes au RSA, à l'ASS ou aux allocations logement. 4 millions de foyers en bénéficieront. 150 euros, c'est la deuxième aide, pour les jeunes précaires et modestes de moins de 25 ans qui seront versés aux jeunes qui bénéficient des APL mais qui ne sont pas étudiants et par ailleurs aux étudiants boursiers. Au total, c'est 1 300 000 jeunes qui pourront bénéficier de cette aide.
Le président de la République refuse ce que nous proposons avec le pacte du pouvoir de vivre. Augmenter le RSA durablement, pas seulement un mois, avec une aide exceptionnelle qui est utile, hein, cette aide exceptionnelle. Il ne faut pas cracher dans la soupe dans cette histoire. Les gens en ont besoin. Refus aussi de l'ouvrir aux moins de 25 ans. Ceux qui, sans soutien familial, n'ont aucune ressource, même pas les 550 euros du RSA. Et du coup, ils n'ont même pas cette aide, puisqu'ils ne sont pas bénéficiaires du RSA.
Bonjour Denis Consigny et David Kella.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre d'abord le Premier ministre Jean Castex, puis Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. L'acte 2 du confinement a donc commencé cette nuit et l'inquiétude est grande de voir une nouvelle partie de la population basculer dans la pauvreté. David Kella.
Oui, effectivement. On a en fait les plus précaires et les jeunes qui sont les plus touchés par cette pandémie, ou plutôt les mesures qui sont prises pour éviter le contact social. Donc concrètement, les jeunes, ils ont notamment les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, ils trouvent porte close parce que concrètement, les entreprises ont beaucoup de mal à embaucher pour produire. Et puis bien sûr, tous les précaires, les gens qui ont des CDD ou qui faisaient de l'intérim, eux, ils profitent pas du chômage partiel, hein, parce que le chômage partiel, c'est pour les gens qui sont en entreprise en CDI. Donc ils ont eu leur fin de leur contrat et puis ils ont pas de nouveaux contrats qui se renouvellent. Donc c'est une population qui est très très fragile.
Ce que le premier confinement nous a appris, Denis Consigny, c'est que c'est une période qui correspond à un accélérateur d'inégalités.
Clairement, ça met en exergue les trous dans la raquette de notre système de protection sociale. Déjà, quand on dit qu'on confine les gens, ça veut dire qu'on les confine chez eux. Quid pour toutes les personnes qui n'ont pas de chez eux, qui vivent dans la rue. C'est une première interpellation. Et ensuite, on voit par exemple le débat sur le coût des masques. C'est une somme absolument non significative pour une partie de la population, mais pour un certain nombre de personnes, c'est déjà un obstacle. Donc on voit bien, plus encore qu'à l'ordinaire, dans ce type de circonstances, combien notre système de protection dispose d'une marge de progression.
Alors, on l'a entendu, ce sont deux visions de la lutte contre la pauvreté qui s'opposent entre Jean Castex et puis le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Pour lutter contre la pauvreté, est-ce qu'il faut privilégier les aides ponctuelles, comme le fait le gouvernement, ou revaloriser le RSA, comme le réclament les associations? question, David Guélin.
Il faut clairement revaloriser le RSA. Là, les aides qui ont été annoncées sont quand même très très marginales. Hein. Ça ne va pas changer grand-chose. On a des coûts supplémentaires. On a le problème de l'accès à l'emploi qui n'existe quasiment plus. Et au-delà même de donner des aides financières, je pense qu'il faut aussi accompagner les personnes qui sont dans la détresse, permettre aussi de leur permettre d'avoir un logement. Hein. On disait tout à l'heure que les gens n'ont pas de logement, donc comment ils peuvent faire pour se confiner? Donc là, il y a tout un aspect de l'aide sociale qui me semble extrêmement important, plus encore que juste donner 100 euros ou 150 euros. Concrètement, c'est à mon avis, c'est ça qui manque aujourd'hui dans le système de protection sociale, c'est un véritable accompagnement.
Mais qu'est-ce que traduit cette position de l'État, cette volonté de privilégier les aides ponctuelles, selon vous, Denis Consigny? Il y a des raisons qui sont à la fois économiques, mais aussi peut-être idéologiques.
Alors, l'État ne souhaite pas s'engager sur des dépenses dans le long terme, donc il préfère intervenir petit à petit en essayant ou en ayant l'impression de maîtriser les sommes. Moi, mon impression, c'est que si on veut sortir de la précarité, la première étape, c'est de sortir ce qui peut l'être de la conditionnalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les acteurs économiques et les gens, dont les populations les plus fragiles, ont la vraie certitude que quoi qu'il arrive, sans dossier à remplir, sans démarche spécifique à faire, elles auront au moins un minimum, certes, on pourra discuter après de ce que c'est ce minimum, mais sur le principe même, il me paraît extrêmement important de sortir ce qui peut l'être du caractère conditionnel des aides actuellement dispensées. C'est une première étape dont cette crise nous donne peut-être l'occasion d'y réfléchir et de la mettre en place.
Alors effectivement, c'est l'un des principes centraux du revenu universel. Venons-en davantage au cœur de notre sujet du jour. David Kella, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de sortir de la conditionnalité par rapport à ce qui existe aujourd'hui?
Le problème, c'est que de toute façon, quelle que soit la forme de revenu qu'on peut envisager, il y aura forcément des formulaires à remplir, ne serait-ce que pour savoir à quel compte bancaire il faut verser la somme, pour éviter de verser deux fois cette somme, pour essayer aussi de concilier, parce que je ne sais pas de quoi on va parler concrètement, mais il y a différents modes d'organiser le revenu universel. Mais s'il s'agit d'avoir un revenu de base que ne toucheraient que les personnes qui seraient en dessous d'un certain seuil, il faut une déclaration d'impôt, il faut un domicile, il faut déjà des choses. La question se pose par exemple des sans-papiers ou des réfugiés, est-ce qu'on leur accorde ou pas? Donc dire qu'on va que le revenu universel permet de supprimer toute paperasse, ça c'est pas possible. Par contre, la question de la conditionnalité, qui est une question différente, me semble aussi problématique, parce qu'en fait, les situations sont différentes entre un jeune de 20 ans sans scolarité ou quelqu'un qui a 50 ans avec des enfants à charge. Les situations sont différentes et moi, mon sentiment, c'est que la conditionnalité, c'est aussi une manière de s'adapter aux spécificités des personnes et surtout de l'accompagner, parce que c'est ça, moi, sur lequel je veux insister, c'est donner de l'argent ne suffit pas forcément, il faut aussi accompagner l'insertion et cet accompagnement va pas être le même selon qu'on a une personne jeune, une personne adulte ou une personne plus âgée. Je rappelle juste que les moins de 25 ans, ils touchent des aides, ils touchent les bourses quand ils sont étudiants, ils touchent la garantie jeune. Alors, il faudrait bien sûr étendre le système, mais c'est pas la même chose que le RSA parce que ça n'a pas la même finalité, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre.
Ce qui est compliqué quand on parle de revenu universel, c'est qu'on parle en réalité de nombreux projets très différents. Ces dernières années, c'était plutôt la gauche qui portait le projet d'un revenu universel. On se rappelle que c'était l'une des propositions de Benoît Hamon, déjà lors de la campagne présidentielle en 2017. Et puis il y a aussi l'idée d'un salaire à vie qui est défendue par l'économiste Bernard Friot. Le revenu universel est-il de droite ou de gauche, Denis Consigny?
Il est au-dessus de la mêlée. Et il l'est pour une raison très simple, c'est que en s'efforçant de sortir de la conditionnalité, et aujourd'hui la conditionnalité c'est extrêmement lourd, puisque la demande de RSA c'est 7 pages, en tout petit caractère, avec un exposé ou une mise à plat de sa vie personnelle et professionnelle. Donc déjà la démarche de dire on sort de ce caractère attribué selon que telle ou telle personne remplit ou non tel ou tel critère, est pour moi une démarche qui se situe très au-dessus du débat droite-gauche.
Mais sur l'aspect libéral du revenu universel, ce qui est intéressant de constater que les premières traces de ce type de salaire se trouvent chez des penseurs libéraux comme Thomas Paine à la fin du XVIIIe siècle, ou encore chez Milton Friedman, Denis Consigny.
Alors oui, enfin, Thomas Paine, c'était plutôt un capital universel à 25 ans et un revenu universel après 50 ans, qui était un âge avancé à l'époque. Milton Friedman a plutôt récupéré le concept de Williams et il l'a popularisé.
C'est-à-dire, expliquez-nous le projet de Milton Friedman.
Alors, le projet de Milton Friedman, c'est un impôt négatif. C'est-à-dire qu'on dit, c'est faire injure à quelqu'un que de l'exonérer de l'impôt et le stigmatiser en disant il ne fait pas partie de la population qui est contributive. On va donc l'aider, mais on va l'aider en vérifiant qu'il répond à tel ou tel critère. L'impôt négatif, c'est simplement de dire tout le monde est dans l'impôt. Et certaines années, certains d'entre nous peuvent être contributeurs nets, et j'espère le plus possible, mais un certain nombre d'entre nous peuvent être débiteurs nets et peuvent percevoir un impôt négatif qui se définit, selon Milton Friedman, par deux chiffres, un seuil et un pourcentage. Et alors après, il y a débat sur, évidemment, où on met ce seuil, où on met ce pourcentage.
Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une ébauche de revenus universels chez Milton Friedman, David Keller? Est-ce que son objectif à Friedman, ce n'était pas en réalité de diviser par deux les dépenses sociales, puisque l'impôt négatif se substituait à l'ensemble des aides sociales?
En fait, il n'a pas présenté les choses comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui proposait, les libéraux comme Hayek disaient qu'il fallait un seuil minimal de revenus pour tout le monde. Et effectivement, parfois, mais c'était pas exactement comme ça qu'il présentait. C'est-à-dire que parfois, il y avait l'idée, on va supprimer. Alors, chez Friedman, il y avait l'idée, au lieu de donner de l'argent aux gens, enfin, au lieu de donner des logements, par exemple, ou des services publics pour les gens, ou par exemple l'éducation, eh bien, il faut plutôt leur donner une allocation. C'est ce qu'il appelait le chèque éducation. Les vouchers, il disait.
L'idée, c'était de faire entrer les gens dans le marché et de permettre au marché d'avoir libre cours.
L'individu, il a besoin de consommer, il participe à la vie économique par sa consommation. S'il n'a pas d'argent, il ne peut pas consommer. Et lorsque l'État produit un service, eh bien, il le fait de manière monopolistique. Et ça, ce n'est pas bien, il faut la concurrence. Donc, il fallait que le secteur marchand organise les choses. Donc, du coup, l'idée de ces libéraux, Hayek, il est à peu près sur la même ligne, et Friedman, c'était de donner de l'argent aux personnes de manière à ce qu'elle puisse dépenser cet argent sur le marché concurrentiel, plutôt que de demander à l'État de produire des services directement.
C'est en vous inspirant notamment de ces penseurs libéraux, Denis Consigny, que vous avez réfléchi à ce revenu de base que vous proposez et que j'aimerais que vous nous expliquiez à ce stade.
Alors,
de l'émission.
Juste une petite précision quand même, ce n'est pas parce que nous nous référons à Milton Friedman sur le point très particulier de l'impôt négatif que pour autant nous faisons nôtre les doctrines et préconisations de Friedman qui ont été suivies par Thatcher et par Reagan.
Mais qu'est-ce que vous retenez de Friedman justement?
Donc, ce que nous retenons de Friedman, c'est uniquement la référence à un mode de calcul extrêmement simple qui permet de mettre tout le monde dans l'impôt, avec donc on trace une droite. Et c'est ce qui est proposé par le modèle Liber-Libertax. On trace une droite où on dit que finalement, on a l'équivalent d'une flat tax de 30% au premier euro sur tous les revenus.
Donc il n'y a plus de progressivité, mais de la proportionnalité dans l'impôt sur le revenu,
voilà.
C'est bien ça.
Mais on constate qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la population, dont les riches, touche un revenu universel. Et notre démarche consiste simplement à proposer que les gens qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt de 6 000 euros par an et par part en bénéficient. Et nous proposons de leur restituer cette somme à travers l'impôt négatif. Donc ça, on peut dire que c'est inspiré des travaux de Williams ou de Friedman. Peu me chaud, je veux dire, le débat n'est pas là.
Non,
le
débat
est de voir. Mais c'est l'idée que la puissance publique doit simplement peut-être corriger les défaillances du marché, idée avec laquelle vous n'êtes pas vraiment en accord, David Keller.
Non, mais moi je pense qu'il faut effectivement que la puissance publique corrige les défaillances du marché, mais elle ne peut pas se limiter à cela. C'est vrai que chez Friedman et dans la Libertax, la taxe que vous avez parlé, c'est bien un impôt proportionnel dont il s'agit. Alors, je n'ai pas compris si cet impôt proportionnel se rajoutait ou se substituait à l'impôt sur le revenu actuellement. Mais c'est vrai que chez Friedman et chez les libéraux, la question de la proportionnalité de l'impôt est très importante parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'État interfère le moins possible avec le marché. C'est-à-dire que concrètement, c'est normal de permettre à tout le monde de survivre. Ça, c'est clairement une des caractéristiques d'ailleurs du néolibéralisme, c'est justement de de maintenir l'ordre social en donnant aux gens un minimum de subsistance. Mais d'un autre côté, comme il ne faut pas trop perturber les marchés, on ne va pas taxer davantage ceux qui ont davantage de revenus parce que ça serait en quelque sorte les pénaliser pour leur réussite. Et voilà, donc tout le problème étant de savoir aussi ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que, de mon point de vue, on ne peut pas limiter l'État. Mais ça j'attends de voir ce que Mathieu Consotini dit. Mais c'est concrètement, est-ce que cela suffit ou est-ce que cela change profondément le système de rapport de force dans l'économie ou change profondément le système d'aide sociale? S'il s'agit juste d'avoir un seuil qui est équivalent au RSA, j'ai l'impression de vous dire que ça ne changera pas grand-chose en réalité.
Mais d'abord, ce que vous dites, Denis Consigny, c'est que ça permet de simplifier l'aide sociale, de lutter contre le non-recours et aussi de combler les angles morts de cette aide sociale.
Effectivement, le non-retour, aujourd'hui, on l'évalue à 15% sur le RSA. C'est énorme.
Et c'est un chiffre qui vont même jusqu'à 30% de non-recours sur les allocations.
Au minimum à 15%, et en fait, on voit des chiffres plus élevés. Donc ça fait une belle économie pour l'État, mais c'est contre-productif au maximum. Et il est à cette hauteur-là parce que les démarches sont très compliquées, parce qu'elles sont inquisitrices, et parce qu'il y a des gens qui sont simplement complètement perdus par les obligations à remplir pour en bénéficier. Puis il y a un droit de contrôle. Et l'exemple de la mise en place de l'Universal Credit en Grande-Bretagne il y a quelques années, c'était justement dans un but d'être plus réactif, mais ça passait par des démarches obligatoirement en ligne. Les bénéficiaires n'avaient pas accès à des outils Internet et ainsi de suite. Et ça a été une véritable catastrophe. Quand on veut renforcer la conditionnalité, en fait, on alourdit le coût de gestion et de suivi pour l'État. On provoque un non-retour, un non-recours important, et finalement, on n'a aucune lisibilité, on n'a aucune assurance.
Mais sur le principe, vous êtes d'accord avec cela, David Kella? Vous dites simplement que l'État doit aller plus loin, ne pas seulement fournir une aide qui soit seulement financière?
Oui, mais je voudrais revenir quand même, pardon, excusez-moi, sur la conditionnalité, parce que quand on dit ça, on a l'impression que l'objectif du RSA, c'est d'exclure des gens. C'est pas comme ça que je le conçois. Alors après, il est possible que, évidemment, qu'on simplifie la démarche. Moi, je serais entièrement d'accord. Il est d'ailleurs possible qu'il faille l'augmenter, le RSA. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que derrière la conditionnalité, derrière ces formulaires, il y a en fait des assistants sociaux, il y a aussi toute une administration qui n'est pas simplement un coût, qui permet aussi aux titulaires du RSA de bénéficier d'un certain nombre de services, d'insertion. Concrètement, on a quand on est au RSA, on a un certain nombre de droits qui sont pas simplement le droit à un revenu, mais qui sont le droit à, on va dire, pouvoir postuler à des démarches d'insertion. Et donc, évidemment, quand on veut organiser une démarche d'insertion, on est obligé de demander de connaître les personnes qu'on veut insérer, donc on est obligé de leur demander de remplir des questionnaires. Mais en soi, d'ailleurs, même le remplissage du questionnaire peut être l'occasion à des assistants sociaux d'aider ces personnes-là, plutôt que de faire évidemment des démarches en ligne anonymisées.
La question que vous soulevez ici, David Kella, c'est celle des services publics. Est-ce que l'objectif, c'est de réduire leur place, Denis Consigny, avec un dispositif tel que celui que vous proposez?
Justement, il faut le mettre au bon niveau. C'est un problème de positionnement de curseur. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Michael Hansen, qui était un bénéficiaire de l'équivalent français de notre RSA. Il vivait en couple, son logement était partiellement payé, il touchait, je crois, avec son épouse 750 euros par mois. Il a été vu devant le parvis de la gare à mendier, faire la manche, par quelqu'un qui était son interlocuteur dans l'office local de l'équivalent de Pôle emploi.
Et alors, comment vous l'interprétez?
Alors, faut que je vous raconte la fin de l'histoire pour vous donner mon interprétation. Et d'ailleurs, je vous laisserai vous exprimer. Enfin, j'aimerais bien que M. Kella s'exprime sur cet exemple. L'administration allemande a dit, bon, il y a visiblement un revenu régulier. Il est repassé plusieurs fois, il a pris des photos. Et donc, il a décrété que cette personne, finalement, gagnait 10 euros par jour en moyenne, 20 jours par mois. Et il a déduit cette somme de l'allocation à laquelle le ménage avait droit. Ça a fait beaucoup de bruit. Il y a un avocat qui s'en est mêlé. La somme a été réduite à 6 euros par jour. Il y a eu un procès, ainsi de suite. Et il y a une association qui s'est établie, qui s'appelle Sanctionfrei, qui a effectivement repéré les cas similaires et qui finalement a été reconnu d'utilité publique, c'est-à-dire que les intervenants dans cette association déduisent de leurs impôts les frais de justice contre l'État. Ça, c'est la situation en Allemagne. Mais en France, le département de la Manche a retoqué 70 dossiers de RSA parce que des bénéficiaires avaient un pécule en banque trop important. Ça s'est passé aussi dans le département de l'Orne et dans le Sud-Ouest. Donc, on arrive à des situations où la conditionnalité devient à ce point inquisitrice qu'elle bloque le fonctionnement du système.
David Kella.
Oui, non, mais le cas allemand, il est caricatural et concrètement, ce n'est pas un cas qu'on retrouve en France. Par contre, dire qu'on ne va pas donner le RSA à des personnes qui ont par ailleurs beaucoup d'argent, ça ne me semble pas totalement injustifié. Parce que le problème du RSA, c'est qu'évidemment, on peut faire une démarche de demande de RSA et en fait, on regarde les revenus, on ne regarde pas forcément le patrimoine. Ce qui n'est pas un mal, je veux dire, quelqu'un qui touche le RSA et qui est propriétaire de son logement, c'est normal de lui donner le RSA. Mais quand vous avez énormément d'argent, parce que ça aussi, c'est des cas qui existent, il est normal aussi que vous ne demandiez pas l'assistance de l'État pour toucher 500 euros par mois de plus ou enfin 600 euros. Moi, ça ne me choque pas qu'on regarde la situation du patrimoine des gens. Mais encore une fois, vous posez la question sur la question de la conditionnalité comme étant une façon inquisitoire de vérifier la vie des gens. En réalité, ce que vous appelez conditionnalité, c'est aussi la connaissance des personnes qu'on aide et aussi permettre de travailler pour leur insertion. Alors, si vous donnez de l'argent directement aux gens en disant ben voilà, débrouillez-vous maintenant, vous avez suffisamment de quoi survivre, il me semble que vous n'aidez pas véritablement ces personnes.
Au-delà de la conditionnalité, la question qui se pose, c'est celle de l'efficacité économique du revenu universel, une efficacité qui fait débat. Est-ce que selon vous, Denis Consigny, c'est un dispositif qui favorise la consommation et donc une relance par la demande, comme on dit ?
Chacun de nous a un rôle social et économique à travers ses actions de production, mais aussi évidemment à travers ses actions de consommation. Et on n'a globalement pas intérêt de maintenir des gens dans des situations de non-pouvoir d'achat ou de survie économique. C'est tout à fait évident.
Donc c'est aussi l'objectif.
Il n'y a même pas de débat là-dessus. Par contre, c'est un problème de hauteur. Il y a des gens qui sont favorables à un revenu d'existence à hauteur au-dessus du seuil de pauvreté, 1000, 1200 euros par mois. Et à ce moment-là, se pose le problème de l'incitation à l'emploi. D'accord ? Au niveau de la IRE, pour l'instant, on est sur ce qui serait finançable et on est à peu près dans les ordres de grandeur du RSA.
Avant d'en venir à l'incitation à l'emploi, David Kella, sur un revenu universel qui permettrait une relance par la demande ?
En fait, là, justement, si on est sur des revenus qui sont similaires à ceux qu'on a aujourd'hui en termes de RSA, en fait, on ne relance pas vraiment la demande. Par contre, si on augmente le RSA tel qu'il existe, on augmente la demande. Mais encore une fois, tout est une question de seuil, hein, comme le disait Monsieur Constantini tout à l'heure. Là où je pense qu'il y a un point important, c'est sur la question du non-recours. Je pense que si on arrive à étendre la raquette, mais alors elle pourra jamais être absolue aussi, parce qu'encore une fois, on a des situations tout à fait particulières. Je veux dire, par exemple, des étrangers ou des personnes qui n'ont pas forcément droit au RSA ou qui pourraient l'avoir, mais qui sont pas conscients de leurs droits. Mais tout ça nécessite en fait de mettre des agents publics, des assistants sociaux pour des personnes dans les foyers d'accueil, par exemple, pour essayer de faire valoir ces droits. L'idée de dire on va faire un système simplifié, parce que encore une fois, il y aura toujours une démarche administrative à faire. Et vous allez voir que tout va se résoudre. Je n'y crois pas. Je pense que plutôt que de faire des formulaires plus simples, même si je pense qu'il faudrait les simplifier, il faut surtout permettre d'avoir des gens qui vont aider les personnes les plus exclues à toucher un certain revenu.
Il y a la question du revenu, mais je voudrais aussi faire un petit pas de côté vers la question du patrimoine, parce que ce que vous proposez également, Denis Consigny, c'est de réduire les inégalités de patrimoine grâce à une somme de 75 000 euros qui serait versée à la naissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, clairement, les inégalités patrimoniales sont dans notre pays beaucoup, beaucoup plus importantes et beaucoup plus durables que les inégalités de revenus. Si on regarde les courbes de Lorenz, et j'ai un économiste en face de moi, elle le montre d'une façon criante. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on m'indique comment se procurer des courbes de Lorenz actualisées, parce que les dernières que j'ai pu me procurer datent de 2013, et par tranche d'âge.
Sur votre proposition.
Alors, sur la proposition de capital universel, en fait, l'idée est la suivante. L'idée est de dire que rechercher l'égalité, c'est un peu une chimère et ce ne serait pas forcément souhaitable. Rechercher l'égalité des chances, ça, c'est un objectif important et crédible. Et pour aller cheminer vers cette inégalité des chances, une bonne façon serait de confier à chaque jeune, le jour de son entrée dans la vie active, par exemple avec 25 ans, une somme importante, par exemple 75 000 euros, mais de la lui donner sous forme d'avance d'hoirie, avance sur héritage. C'est-à-dire qu'on constate que l'espérance de vie augmente et que la plupart d'entre nous héritons à partir du moment où nous sommes déjà à la retraite. Donc pour faire circuler de l'argent dans l'économie, c'est pas excellent comme schéma. Et donc si on confie, et je dis bien confie à des jeunes, au moment de leur entrée dans la vie active, un capital significatif, et qu'ils rétrocèdent cette somme à la collectivité le jour où ils héritent, s'ils héritent, et s'ils n'héritent pas le jour où ils quittent notre terre, à ce moment-là, on a une façon de dynamiser l'économie pour pas cher et très efficace.
Alors, vous n'êtes pas le seul à faire cette proposition. Thomas Piketty, qu'on recevait la semaine dernière dans ce studio, propose également 120 000 euros à chaque jeune pour justement réduire ces inégalités de patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez, David Keller?
Alors, c'est pas tout à fait la même proposition de Monsieur Cosentini, et de Thomas Piketty, parce que Thomas Piketty, lui, il passe par une fiscalité importante. Vous parlez d'avance sur l'héritage. Le problème, c'est que la majorité des gens n'héritent de quasiment rien, rien ne dit qu'une fois qu'ils seront décédés, ils auront un capital qui restera, parce que l'égalité des chances, moi, c'est un mot qui est considéré en fait qu'on peut organiser l'égalité des chances juste. Encore une fois, par la distribution d'argent, sans considérer tout ce qui est capital social, capital culturel, sans s'intéresser aux effets de domination. C'est en quelque sorte faire confiance au marché en disant, ben voilà, vous avez de l'argent, faites-le fructifier, et vous verrez, vous êtes tous égaux, et les plus méritants, peut-être, auront davantage d'argent que les autres. Mais moi je me méfie de cette histoire de mérite et de marché neutre et aveugle qui offre plus de réussite aux plus méritants. La réalité, c'est que on commence pas pareil, je veux dire, même à 20 ans, on n'est pas sur la même borne de départ, y compris si on nous donne le même capital financier. Je préfère
donc
beaucoup
insuffisant,
plus.
Mais même pas souhaitable pour vous, David Keller.
Ce qui me semble le plus efficace pour diminuer les inégalités, en réalité, c'est-à-dire ce que montrent les statistiques de l'INSEE, ce sont les services publics. C'est-à-dire donner à chacun ce dont il a besoin. Ça corrige bien davantage les inégalités, et ça veut dire financer par l'impôt, que en fait donner de l'argent aux gens. Ça c'est ce que montre l'INSEE, c'est-à-dire que concrètement, dans les 25% les plus pauvres, ou dans les 20% les plus pauvres, les ce qu'on appelle la redistribution en nature, c'est-à-dire les services publics, en fait, double la consommation effective des ménages, alors que les distributions en espèces, l'argent, en fait, n'augmente que quasiment pas, un petit peu, mais très peu. Et donc, si on veut vraiment rétablir l'équilibre et corriger les inégalités, il faut pas juste se contenter distribuer de l'argent. Il faut aussi penser à la manière dont les services sociaux, les services publics et la redistribution en nature corrigent aussi les inégalités.
Denis Consigny.
Oui, Thomas Paine disait, il y a une grande différence pour un couple qui démarre dans la vie entre démarrer avec 15 livres chacun et avec rien du tout. Je reviens donc sur cette dotation initiale. Si jamais les gens ne peuvent pas restituer à la fin de leur parcours de vie, c'est l'État, c'est la caution de l'État qui joue. Et donc, c'est un pari, mais ça va représenter 3 ou 4% des encours. Et donc, on a bien là un mode de financement qui est extrêmement efficace et qui ne coûte rien à la société.
L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord changer notre relation au travail. Nous sommes en train de vivre une révolution numérique, on le voit. Dans beaucoup de secteurs, il y a une véritable transition. Il y a des secteurs, hier, vous pouviez avoir des caissières dans une grande surface. Demain, elles pourraient être remplacées, je dis bien pourraient, par des portails, des portiques automatiques. Chacun pressent que nous sommes dans un monde en transition. Et je pense que le revenu universel d'existence, c'est équivalent à la création de la sécurité sociale. C'est une nouvelle protection sociale. Et ça se rajoute effectivement à un certain nombre de dispositifs existants. Le but, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître qu'on peut travailler sans être dans l'emploi. Quand vous consacrez au soutien à des personnes âgées isolées, vous rendez un service à la société, vous contribuez au lien social, et ce travail n'est pas reconnu. Deuxièmement, ça permet de choisir son temps de travail différemment. Je souhaite demain réduire mon temps de travail parce que je souhaite articuler ma vie personnelle et ma vie professionnelle différemment. Le revenu universel me le permettra.
Benoît Hamon, chez nos confrères de France Inter, c'était le 3 octobre 2016. David Kiela, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un revenu universel qui changerait notre travail, notre rapport au travail, qui nous permettrait de choisir véritablement son temps de travail?
Alors déjà, il y a une confusion, je pense, très importante que fait Benoît Hamon et qui mérite d'être soulignée. C'est-à-dire qu'en fait, il veut valoriser le non-marchand, c'est-à-dire aider son prochain, hein, une personne âgée, etc., ou garder des petits-enfants quand on est grand-parent. Donc ça, c'est une activité qu'on fait bénévolement. Et il dit, cette activité, c'est du travail et il faut le rémunérer. Et là, il y a un problème, parce que quand on donne de l'argent aux gens, forcément cet argent, il va dans le secteur marchand. Et donc, en fait, si on veut vraiment développer le non-marchand, il ne faut pas le marchandiser, en quelque sorte, il ne faut pas le rémunérer avec de l'argent. Pour moi, il y a deux fonctions de l'État, on va dire, enfin plusieurs fonctions, mais il y a deux importantes dans la correction des inégalités. La première, effectivement, c'est la redistribution monétaire en espèces, et donc ça passe par, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord, par des revenus de substitution pour les retraités, pour les personnes qui sont exclues ou en grande pauvreté, mais ça passe aussi, je l'ai dit tout à l'heure, par la distribution de services publics, c'est-à-dire en fait la distribution de production non marchande, c'est-à-dire qui n'est pas vendue aux gens. Et ça, pour moi, c'est la grande fonction de l'État. Et elle est un peu oubliée dans ce débat. C'est-à-dire que quand on veut simplement donner de l'argent, enfin redistribuer la monnaie, on oublie que c'est la fonction première de l'État, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est avoir des routes qui fonctionnent, etc.
Est-ce que le revenu universel est là, Denis Consigny, aussi par rapport à cause de cette fin du travail qui avait été prophétisée dès 1995 par Jérémy Rifkin? Il est aussi là pour remplir cette fonction?
Ah non, il n'a absolument pas vocation à se substituer au travail. Ça peut éventuellement permettre, avec un socle citoyen, ça pourrait permettre à des gens de prendre une année sabbatique ou un semestre sabbatique dans de meilleures conditions. Mais c'est tout ça. Au niveau envisagé, de toute façon, une personne ne peut pas décemment espérer vivre à ce niveau-là. Donc l'incitation au travail n'est absolument pas compromise et il n'a pas vocation à se substituer au salaire ou au... Voilà.
L'enjeu, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait une trop faible différence avec ce salaire, ce revenu universel, entre les revenus de l'activité et les revenus de l'inactivité, parce que ça risquerait de créer ce qu'on appelle une trappe à inactivité.
Oui, ça, c'est ce que pense un certain nombre d'économistes. Effectivement, j'ai entendu même Emmanuel Macron dire qu'il ne faut surtout pas augmenter le RSA, parce que sinon, les gens ne vont plus travailler. En réalité, les études empiriques qui ont été menées, et notamment par Esther Duflo, hein, qui l'a dit plusieurs fois, montrent qu'il n'y a pas vraiment cet effet trappe à inactivité. Quand on a transformé le RMI en RSA, justement, hein, c'était revenu minimum d'insertion au départ, qui est devenu le revenu de solidarité active. On avait cette composante activation, c'est-à-dire qu'on voulait faire un revenu qui ne fait pas d'effet de seuil et n'empêche pas les gens d'aller travailler. La réalité, c'est que en fait, il n'y a pas eu de diminution du chômage à cause du RSA, enfin grâce au RSA, parce que en fait, la question de l'incitation n'existe quasiment pas. Concrètement, les gens, ils sont heureux de travailler, ça fait partie de leur identité, de leur dignité personnelle, et le revenu du RSA pourrait tout à fait augmenter sans, à mon avis, changer les incitations à travailler, pourvu que dans le travail, il y a aussi, là on pourra en reparler, mais un respect de la personne et que les gens se sentent suffisamment épanouis. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne veuillent pas travailler.
À cause de la reconnaissance sociale, on est de toute façon incité à travailler, Denis Consigny?
Bien sûr, les gens ont très majoritairement envie d'avoir une vie sociale et le professionnel est un point important de la vie sociale. Mais de toute façon, au niveau qui sont actuellement finançables, compte tenu d'un taux de prélèvement qui est déjà à 54%, on n'est pas sur des sommes qui pourraient être vécues comme désengageantes par rapport à la vie professionnelle. Donc,
mais vous pensez qu'au-delà d'un certain seuil, c'est désengageant,
effectivement on avait un revenu universel à 1200, 1500 euros par mois, il y aurait très certainement des gens qui diraient, surtout s'ils sont déjà propriétaires de leur logement ou une solution de logement, qui pourrait être tenté de sortir de l'emploi. Mais malheureusement, on est dans une pleine utopie et je ne vois pas tels que sont les équilibres budgétaires, ou plutôt tels qu'ils étaient en 2019, je ne veux pas parler de ce qu'ils sont actuellement, comment on pourrait arriver à de telles sommes.
L'un des écueils, c'est évidemment la question du financement de ce revenu universel, David.
Non, c'est pas que la question du financement du revenu. C'est-à-dire que le problème est que ce qu'on consomme avec son revenu ne peut être le produit que du travail des autres. Hein. Et si les gens ils arrêtent de travailler en disant « je vais toucher un revenu, donc j'arrête de travailler », évidemment, au bout d'un moment, ça ne boucle plus. Toute la richesse qu'on consomme, elle est le produit du travail, y compris d'ailleurs la richesse dont on bénéficie gratuitement, hein, encore une fois, les services publics, etc. C'est le produit du travail des fonctionnaires. Donc, l'utopie sur laquelle on va pouvoir changer le travail, hein, c'est un peu ce que j'entendais chez Benoît Hamon, c'est-à-dire supprimer en quelque sorte le travail en le substituant par de l'argent, ça n'a aucun sens, parce que sinon ça veut dire que ce qu'on voudra consommer en fait ne sera pas produit par des gens.
Denis Consigny.
Oui, ça ne fonctionne que dans le cas de la moderne monetary theory, où l'État est censé pouvoir émettre autant de monnaie qu'il le veut et être l'employeur en dernier recours. En toutes circonstances, mais malheureusement, cette théorie qui était portée par Bernie Sanders, il semblerait que ses applications soient pas prouvées.
Il y a un dernier argument sur lequel je voudrais vous entendre, c'est le fait que avec le revenu universel, l'objectif, cela permettrait de donner plus de pouvoir de négociation aux salariés. Denis Consigny, ça c'est un argument qui est souvent mis en avant.
Alors c'est le précédent de Stoneham en Angleterre où la paroisse donnait un revenu universel aux familles, qui était peu important, mais qui permettait quand même d'acheter un peu de pain et ainsi de suite. Et les employeurs s'en sont emparés pour dire, bon, vous avez déjà ça, et réduire les salaires à due proportion. Il y a ce danger-là, mais encore une fois, nous sommes actuellement sur des montants où ce risque ne risque pas de survenir.
Est-ce que ça pourrait pas être un avantage, David Kella, du revenu universel, le fait de donner plus de pouvoir de négociation aux salariés?
Alors évidemment, tout est fonction du montant. Je veux dire, là, on parle d'un revenu universel qui se substituerait ça et qui serait à peu près au même niveau. Donc évidemment, ça changerait pas grand-chose. Mais même s'il était plus haut, de mon point de vue, ça serait pas forcément un gain. En gros, la négociation ne marcherait pas forcément. Enfin, ça avantagerait pas forcément les salariés, parce que je pense que ce qui a le plus contribué à améliorer les rapports dans l'entreprise, c'est surtout le droit social. Et je pense que le droit social est bien plus important pour améliorer les rapports de force entre employeurs et employés que simplement un revenu extérieur. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut mettre l'accent.
Un dernier mot, peut-être, Denis Consigny, David Kella, sur les moyens de lutter contre la pauvreté à court terme, car la situation risque de s'aggraver pour les plus fragiles avec le confinement. Il y a des raisons de s'en inquiéter, mais aussi à plus long terme, on a le sentiment que peut-être c'est le moment de repenser l'intégralité de notre modèle social, David Kella.
Ah ben je pense qu'il faudrait repenser l'intégralité de notre modèle économique d'abord, parce que là on a un vrai problème. Concrètement, on voit l'effondrement du secteur marchand, de très nombreuses entreprises vont faire faillite, et donc évidemment ça a posé un problème, parce que derrière ces faillites il y a des drames humains, mais il y a aussi une perte de compétences, une perte de capital. Pour ça, il faudrait déjà, moi je pense qu'il faudrait relancer en partie l'emploi public dans tout ce qui est les secteurs importants comme la santé, comme l'éducation, comme l'aide sociale. Et puis après, il faudrait un peu réfléchir à une économie qui soit un peu plus résiliente sur le long terme et qui produise des choses qui sont pas forcément dépendantes de la bonne volonté des marchés financiers, des marchés en général.
Denis Consigny.
Moi, ce que je voudrais mettre en avant sur ce sujet, c'est que si nous avions eu un système de type Liber-Libertax avec un impôt négatif en place, notre société aurait été un peu plus robuste face à la crise que nous traversons, puisqu'il suffisait, il aurait suffi, je le mets ça entre guillemets, mais d'augmenter le seuil puisque avec le mécanisme du prélèvement à la source, en fait, tout était en place, et on augmentait aussi longtemps que nécessaire et aussi haut que nécessaire ce seuil, de façon à ce qu'on passe la crise plus facilement.
Un grand merci à tous les deux, Denis Consigny et David Kella, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On reparlera bien sûr de cette vaste et importante question de la lutte contre la pauvreté. Mais d'abord, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau partenariat avec le quotidien Les Échos.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Elsa Conesa.
Bonjour Tiffaine.
Bienvenue parmi nous. Vous êtes rédactrice en chef finance et marché aux Échos et vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la décision de la Banque Centrale Européenne hier de ne pas modifier la politique monétaire.
Oui, Tiffaine, cette réunion était très attendue, mais la BCE a décidé de ne pas bouger. Alors, ça peut surprendre, compte tenu du fait que, avec les reconfinements en France et en Allemagne, les États vont devoir accroître leur soutien à l'économie. Mais la BCE a préféré attendre et interviendra plutôt en décembre, lors de sa prochaine réunion. Alors, il faut quand même rappeler que la BCE soutient déjà massivement l'économie européenne, avec notamment ce programme d'urgence de 1350 milliards d'euros lancé en mars, et grâce auquel elle peut racheter de la dette d'entreprises et d'États sur les marchés pour faire baisser leurs coûts de financement. C'est en particulier comme ça qu'elle soutient la dette des États plus fragiles, comme l'Italie ou la Grèce.
Mais alors, que fera la BCE en décembre ?
Alors, première chose, elle ne devrait pas baisser ses taux. Comme vous le savez, les taux de la BCE sont négatifs depuis 2014 et elle ne veut pas, à ce stade, descendre plus bas. On est à moins 0,50, pour mémoire. Il faut admettre que gagner de l'argent en empruntant, c'est tout de même une situation un peu baroque. En revanche, la BCE a d'autres outils pour soutenir l'économie et la plupart des économistes s'attendent à ce qu'elle augmente encore ses interventions sur les marchés en augmentant les rachats d'actifs jusqu'à 500 milliards d'euros supplémentaires en décembre. On s'attend également à ce qu'elle prolonge ses fameux programmes de soutien de 6 mois jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Il y a aussi une autre actualité cette semaine pour la BCE, puisque Christine Lagarde fêtera ce dimanche ses 1 an à la tête de la Banque Centrale Européenne.
Oui, Tiffany, c'est un anniversaire qui intervient dans un contexte un peu particulier. Souvenez-vous, quand Christine Lagarde a pris les rênes de l'institution monétaire au 1er novembre 2019, le gros sujet pour elle, c'était alors de convaincre les États européens, l'Allemagne pour ne pas la nommer, qu'ils fassent de la relance budgétaire pour soutenir la croissance. Autrement dit, qu'ils dépensent plus d'argent public. Et bien, 1 an après, son vœu a été plus qu'exaucé. Les États européens dépensent des centaines de milliards d'euros. Et le plus incroyable, c'est que les marchés ne bronchent pas. Ce qui est en partie grâce à elle, puisque toute cette dette supplémentaire que les États émettent en ce moment pour financer les plans de soutien, c'est en grande partie la BCE qui l'achète via ses différents programmes.
Et alors, que dire de la présidence de Christine Lagarde au terme de sa première année ?
Eh bien, honnêtement, qu'elle n'a pas démérité. Souvenez-vous, quand elle a été nommée il y a 1 an, on disait qu'elle n'était pas assez pointue, que ce n'était pas une économiste, qu'elle ne saurait pas parler au marché. On doutait aussi un peu des vertus de cet art du consensus qu'elle revendique depuis toujours. Alors, il est vrai que son prédécesseur Mario Draghi avait tendance à décider seul et à ignorer les points de vue divergents. Et les marchés adoraient ça. Au final, avec un style différent, Christine Lagarde, elle a obtenu des résultats tout aussi convaincants. La BCE a délivré ce qu'on attendait d'elle au moment où on l'attendait depuis le début de la pandémie. Et heureusement qu'elle était là. Regardez le plan de relance européen, ce fameux plan de 750 milliards d'euros annoncé à Bruxelles en grande pompe en juillet. Eh bien, il est toujours suspendu aux chamailleries des États membres et il n'est toujours pas voté.
Merci beaucoup, Elsa Conessa. On vous retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Bon week-end. Comme chaque vendredi, votre nouveau rendez-vous Racontez-moi l'écho se propose d'entremêler fiction et économie. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le monde des zombies qui prolifèrent sur les ruines du capitalisme.
They're still here.
They're after us. They know we're still in here.
They're after the place. They don't know why, they just remember. Remember that they want to be in here.
What the hell are they?
They're us, that's all. There's no more room in hell.
What?
It's something my granddaddy used to tell us. You know Mukumbo? Furu. Granddad was a priest in Trinidad. He used to tell us, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Bonjour Manouk Borzakian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes géographe et auteur de cet ouvrage, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, paru aux éditions Playlist Society. Vous avez reconnu cet extrait de Dawn of the Dead, le film de George Romero de 1978, traduit en français par Zombie, le crépuscule des morts vivants. D'abord, il faut dire peut-être, Manouk Borzakian, que la figure du zombie ou du mort vivant est présente au cinéma maintenant depuis un demi-siècle, mais qu'elle a connu un regain de succès dans les années 2000.
Oui, même plus qu'un regain, ça a complètement envahi nos imaginaires collectifs. Je pense jusqu'aux années, dans les années 70, 80, voire 90, il y a finalement assez peu de films avec des zombies. C'est des films souvent des films indépendants avec pas beaucoup d'argent, notamment les films de Romero, précisément, ou la parodie de Peter Jackson en 1992, Brain Dead. Donc ça reste assez marginal en fin de compte. Et à la fin des années 90, il y a vraiment un basculement. Il va y avoir le jeu vidéo Resident Evil qui va devenir un film en 2002, un film britannique en 2002, 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Le premier film de Zack Snyder qui va devenir très connu ensuite. Son premier film, c'est un remake d'un film de Romero en 2004. Et puis évidemment, qu'on a entendu au début, la série The Walking Dead qui démarre en 2010, qui est encore là aujourd'hui après 10 saisons.
On a entendu le générique effectivement.
Absolument. Et puis surtout des très grosses productions nord-américaines qui se réapproprient le genre avec Je suis une légende en 2007 et puis World War Z en 2013 avec Brad Pitt.
Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui,
pour conclure,
oui, allez-y.
Non, juste pour dire un mot qu'en 2019, il y a quand même la consécration institutionnelle avec avec le film de Jim Jarmusch qui apparaît en ouverture à Cannes.
Alors effectivement, c'était un film important. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Manouk Borzakian, c'est le fait que les zombies sont apparus au cinéma au même temps que la société de consommation. Et pour vous, on peut voir dans la figure du mort-vivant un avatar du consommateur avide, animé par un désir pulsionnel de possession et d'accumulation.
Alors ça disons c'est la lecture la plus répandue et la plus logique, la plus simple qu'on voit en disons en premier. Si on voit typiquement Dawn of the Dead dont on a entendu un extrait au début, c'est vraiment le film sur la société de consommation, on est à la fin des années 70 et donc George Romero imagine une épidémie zombie, enfin une invasion zombie, on sait pas très bien. Et quatre personnages se réfugient dans un centre commercial et ils vont se barricader là-dedans, ils vont réussir à se mettre à l'abri. Et ce qu'ils constatent, c'est que les zombies entourent le centre commercial et essayent désespérément d'y entrer. Et donc on se dit, bon bah voilà, le zombie, c'est vraiment l'individu décérébré qui n'a plus qu'une seule pulsion, qui est la consommation, et même la consommation de son prochain, espèce de comme ça de d'aboutissement logique de la consommation à tout craint. Après, je pense, il dit aussi autre chose, Romero, parce qu'en fin de compte, ce qui va se passer dans ce film, c'est intéressant, c'est que justement les quatre personnages sont à l'abri, n'ont pas de problème de survie, ils ont de quoi manger puisqu'ils sont dans un gigantesque centre commercial, ils sont pas en danger puisqu'ils ont tout barricadé, et en fin de compte, le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont s'ennuyer. Et ça aussi, c'est une critique de la société de consommation, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont à l'abri, qu'ils ont bien à manger, ils se rendent compte que leur vie à quatre, avec une télé, c'est pas génial. Et c'est ça qui va être la cause de leur perte. En réalité, il y a des interventions extérieures, mais le vrai problème crucial, ça va être qu'ils s'ennuient et qu'ils se demandent quoi faire et qu'ils vont commencer à prendre des risques idiots. Et cette idée de l'ennui, ça fait vraiment écho à toutes les critiques de la société de consommation qui émergent à la fin des années 60 et au début des années 70. Qu'on lise les situationnistes, qu'on lise Baudrillard, il y a vraiment cette idée d'une perte de sens liée à la consommation de masse. Puis il y a cette phrase célèbre de Van Engheim qui dit, je vais essayer de la retrouver exactement, on a échangé la garantie de ne pas mourir de faim contre le risque de mourir d'ennui. Je pense que je ne dois pas être loin. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe dans le film de Romero.
Et c'est une perte de sens qu'on peut retrouver aussi du côté des vivants. C'est ça qui est intéressant, c'est ce brouillage qu'on trouve dans certains films de zombies entre les morts vivants et les vivants, tant ces derniers ressemblent justement à des morts vivants. C'est ce qu'on voit par exemple dans le film Shaun of the Dead d'Edgar Wright qui est sorti en 2004, Manouk Borzakian.
Oui, alors j'allais prendre l'exemple de Shaun of the Dead parce que la première scène est vraiment emblématique de ça, de cette idée que, enfin, il y a une espèce de d'ambiguïté. On se demande dans les premières images du film, on se demande qui est le zombie. Enfin, il y a une espèce d'incompréhension avec ce personnage qui sort de chez lui, qui a une espèce de vie oisive, qui pense qu'à aller jouer à ses jeux vidéo et aller s'acheter des canettes à l'épicerie d'en face, et puis qui croise des zombies sans même s'en rendre compte. Donc une espèce de truc complètement absurde où on se rend compte qu'en fin de compte, l'idée du film, c'est qu'on est tous des zombies obsédés, comme je disais tout à l'heure, par la consommation et ne pensant plus à grand chose d'autre. Et on retrouve ça dans le film de Jarmusch aussi, hein, qui fait revenir des morts, qui sont encore obsédés une fois qu'ils sont revenus de la mort. Je crois qu'il y a notamment au début du film, on voit Iggy Pop qui veut absolument boire du café, puis qui répète ça en boucle, puis ça, on va revoir ça avec les autres personnages après.
Obsédé par la consommation ou éventuellement aliéné par le travail qui peut aussi transformer les gens en zombies.
Alors par le travail, ça il faudrait peut-être, je sais pas si c'est quelque chose qu'on voit tellement dans les réappropriations contemporaines du genre. Par contre, c'est quelque chose qui est très très vrai à l'origine, c'est-à-dire dans les tout premiers films de zombies qui sont même bien avant Romero, hein, cette manière dont Hollywood s'est approprié au départ le mythe haïtien du zombie. Donc dans les années 30 et 40, il y a très peu de films, mais il y en a quelques-uns. Puis il y aura une suite avec Wes Craven en 1988 qui va reprendre cette idée dans un autre film. Et là, effectivement, le zombie est vraiment la métaphore de l'esclave, puisque c'est pas tellement un mort-vivant assoiffé de sang ou de chair humaine, mais c'est plutôt une créature, plutôt un individu qu'on fait passer pour mort et qu'ensuite on arrive à contrôler entièrement et qu'on va donc utiliser pour travailler dans les plantations haïtiennes. Donc là, clairement, une très claire métaphore de l'exploitation par le travail.
Dans le film World War Z, qui est sorti en 2013, la ville de New York, dans le New Jersey, est menacée par une invasion de zombies. Dans les supermarchés, c'est le chaos qui règne.
What do you need?
A butyrol.
They outgrow the asthma, supposedly. And this shit too is magic for my kid.
Thank you.
Mommy!
Karen!
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 Get off of me! That's all I have!
Hey!
Karen!
Hey! Hey!
Jerry!
Voilà un exemple de scène de chaos provoquée par l'arrivée imminente des zombies. Il y a ces scènes d'un côté et puis une autre interprétation possible, Manouk Borzakian, c'est cette idée selon laquelle les zombies pourraient être les exclus du système économique, c'est-à-dire ceux dont le capitalisme n'a même pas besoin, une sorte de sous-prolétariat.
Oui, alors on peut complètement le dire comme ça, comme une espèce d'angoisse qui nous toucherait un peu toutes et tous de devenir comme ça des espèces de restes inutiles de la logique productiviste. Il y a Achille Mbembe notamment qui a écrit sur ça, sur le devenir nègre du monde, c'est-à-dire l'idée qu'on serait tous menacés de devenir des... tous plus ou moins menacés évidemment de devenir des sous-prolétaires, c'est-à-dire ce qu'était la condition esclave à partir du 15e, 16e siècle. Et donc effectivement il y a une lecture comme une inquiétude de déchéance sociale et qui manifestement en tout cas laisse très peu de gens à l'abri.
Et ce qu'on observe dans les films de zombies, c'est que le mort-vivant est tantôt une figure de l'altérité, soit il est conçu comme un autre avec qui il faut apprendre à communiquer, soit il est conçu comme une masse uniforme à abattre, Manouk Borzakian.
Oui, alors ça, c'est vraiment un point important, surtout parce que d'un film à l'autre, on a vraiment tout et son contraire, puisque... je parlais du zombie haïtien au départ, qui alors là pour le coup est vraiment une espèce d'altérité très exotique, très lointaine, qui fait partie de l'imaginaire colonial. Le zombie qui arrive en 1968 avec Romero, il sort complètement de ça, et il est l'héritier d'ailleurs de tout un mouvement dans les années 50-60 dans le cinéma fantastique nord-américain de d'intériorisation de la menace, c'est-à-dire qu'on commence à non plus à regarder s'il y a des extraterrestres qui vont venir nous envahir, mais s'il n'y a pas des problèmes internes à la société nord-américaine. On voit ça on pourrait citer l'invasion des profanateurs de sépultures, par exemple, en 56. Bref, il y a toute une série de films, et puis voilà, avec Romero, c'est complètement acté, il y a une altérité qui surgit très violemment, très brusquement au sein de la société nord-américaine. Y compris au sein de la famille, donc vraiment on est dans des choses extrêmement inquiétantes et extrêmement violentes, c'est-à-dire qu'il y a d'innombrables scènes d'enfants qui tuent leurs parents, de frères, de sœurs qui reviennent, enfin bon, c'est sans fin, et qui vont même jusqu'à interroger notre identité au niveau individuel, hein, puisqu'on est tous et toutes menacés de contamination et que ça pose la question sur la continuité de notre propre être. Est-ce qu'on sera toujours nous-mêmes si on se fait mordre? Enfin bon, voilà, ça pose tout un tas de questions comme ça. Mais par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a vraiment deux approches. Enfin, je schématise évidemment, mais Disons, en gros, on a un cinéma indépendant, notamment le cinéma de George Romero, mais il n'y a pas que lui qui travaille ça, qui questionne cette altérité et qui questionne les modalités dans lesquelles il pourrait y avoir des liens entre l'humanité et ces zombies dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Et donc ça voilà, il y a une réflexion sur le racisme, sur le rapport à l'autre, qu'on retrouve notamment dans une série britannique qui s'appelle In the Flesh, où les zombies sont réintroduits dans la société. On leur donne plein de médicaments, ils ont un comportement à peu près normal, mais évidemment ils vont être victimes de stigmatisation de toutes sortes. Et inversement, il y a un cinéma plus mainstream, j'insiste, je caricature beaucoup, mais un cinéma plus commercial, qui va lui avoir tendance à avoir une vision beaucoup plus binaire et à rejeter cette altérité comme étant uniquement un ennemi, et comme vous avez dit, qu'on va présenter de manière collective, comme une masse à peu près informe.
C'est ce qu'on retrouve dans World War Z, justement. Je voudrais vous faire entendre un dernier extrait dans lequel l'État d'Israël décide de se protéger des zombies en érigeant de gigantesques murs d'enceinte.
Il y a tellement de potentielles sources en jeu que personne ne sait où elles ont commencé. L'organe trade en Allemagne.
Il y a trop d'origines possibles pour savoir d'où le virus est parti. Pendant ce temps, le fléau se répand, alors on fait ce qu'on peut. Voilà les portes du salut de Jérusalem. Deux des 10 portes mènent au territoire fortifié d'Israël. Vous laissez les gens entrer ? Chaque humain sauvé est un zombie de moins. Ce que l'on comprend avec cet extrait, Manouk Borzakian, c'est que d'un côté, il y a les films dans lesquels il faut se barricader contre les morts vivants et tenter de vivre en autarcie, et de l'autre, les films dans lesquels le zombie est une menace qui vient de l'intérieur, de la structure sociale et familiale.
Oui, bah disons que du moment où on dit que ça vient de l'intérieur, on a une approche beaucoup plus critique, beaucoup plus contestataire. Dès le premier film de Romero, il y a vraiment ça. On est en pleine guerre du Vietnam, il y a les droits civiques, il y a les questions de domination masculine, et tout ça donne l'espèce il y a des fractures infinies dans ce film. Tout le monde s'entretue, et en fin de compte, le danger, c'est plus tellement les zombies, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison où les héros sont se sont réfugiés. Donc il y a effectivement deux manières de voir les choses, et plus on va considérer que la menace vient de l'intérieur, plus on va être dans une logique critique à se demander quelles sont les causes, quels sont les fondements de cette société occidentale, enfin de ces sociétés occidentales qui créent leurs propres monstres, alors qu'on va avoir des approches, comme je disais, beaucoup plus binaires, qui vont dire non, ça c'est extérieur, et puis c'est une guerre, il faut tous les exterminer, et puis après tout redeviendra comme avant.
Et puis on peut aussi voir l'arrivée des zombies comme une opportunité pour certains de renverser le rapport de force. On voit qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Un grand merci, Manouk Borzakian, de les avoir partagées avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, et c'est paru aux éditions Playlist Society.
Merci beaucoup.
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levacher. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. La semaine prochaine, comment les pays émergents font-ils face au virus? Leurs économies tiennent-elles le coup? On partira du côté de l'Asie du Sud-Est, du Nigeria et du Brésil. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.